Merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel. Il est 13h30 ici à Paris.
RFI Midi.
Et dans une demi-heure, ce sera l'heure du journal de toute l'actualité internationale et ce sera avec vous, Florent Guignard, bonjour.
Bonjour, à la une le Liban, 3 jours après la mort de Hassan Nasrallah, le numéro 2 du Hezbollah a pris la parole ce matin, successeur à Hassan Nasrallah devrait être désigné très vite, dit-il. Le Hezbollah a-t-il ajouté, se dit prêt à une offensive terrestre d'Israël au Liban, ce que le ministre israélien de la Défense a encore évoqué tout à l'heure. Pour l'heure, ce matin, il y a eu de nouvelles frappes aériennes israéliennes sur le Liban qui ont tué notamment le chef du Hamas au Liban. À la une encore, le procès des emplois présumés fictifs du Rassemblement national au Parlement européen. Marine Le Pen risque l'inéligibilité, mais elle se dit sereine. On ira aussi en Autriche au lendemain de la victoire de l'extrême droite, près de 30% des voix. Hommage aussi à Chris Christensen, une star de la musique country aux États-Unis, autre star du football français, Antoine Griezmann. Il annonce sa retraite, il ne jouera plus en équipe de France et ça, ce sera dans le journal des sports juste après.
À tout à l'heure, Florent Guignard, on vous retrouve dans un peu moins d'une demi-heure.
RFI Midi, Anne Cantner.
D'ici là, l'actualité en Europe avec donc ce nouveau triomphe de l'extrême droite en Autriche. Le FPÖ a fait mieux que les chiffres annoncés par les sondages qui étaient pourtant déjà historiques. Du jamais vu, mais l'extrême droite aura du mal à former une coalition, on le verra dans un instant. Et puis nous irons en Turquie, vous l'entendrez, le quotidien des réfugiés afghans est de plus en plus difficile.
RFI, l'Europe à midi.
Beaucoup de questions à la une de la presse autrichienne ce matin, tout autour du même thème. Comment gouverner avec une assemblée divisée, fracturée en 3 blocs de taille à peu près similaire, mais dominée donc pour la première fois par l'extrême droite? C'était attendu, le FPÖ est arrivé en tête des législatives d'hier. Et même s'il ne lui sera pas facile de former une coalition, les militants du parti veulent croire à un gouvernement d'extrême droite. Ils l'ont dit hier soir en célébrant leur victoire inédite à notre correspondante Isorias.
Les électeurs du FPÖ ont célébré toute la soirée cette première place historique. Helmut, militant depuis de nombreuses années, espère aujourd'hui du changement.
Il faut que les choses changent et l'une d'entre elles est l'immigration que nous devrions rendre un peu plus sélective afin de prendre les personnes dont notre pays a vraiment besoin. Chez les Américains, on dit « America first », mais chez nous, c'est mal de dire « Österreich first », l'Autriche d'abord, et ça, je ne comprends pas.
Petra, une jeune quarantenaire, affirme que c'est la position anti-vaccin du chef du FPÖ, Herbert Kickl, durant la pandémie, qui l'a convaincu de voter extrême droite ce dimanche.
J'aime sa stabilité d'opinion. Pendant la crise Covid, il a vraiment tenu bon et c'est là qu'il a gagné mon cœur. La crise Covid a creusé un fossé au sein de la population et ces divisions doivent cesser.
Désormais, les électeurs FPE comme Yasmine en appellent aux conservateurs de l'EFAOP pour former ensemble une coalition.
On voit ce soir ce que le peuple veut et dans une démocratie, on doit suivre ce que le peuple souhaite. On a déjà eu des gouvernements, EFAOP, FPE, et de bonnes choses sont sorties. C'est pourquoi j'espère que cela pourra continuer de manière aussi positive.
Le chef des conservateurs, Karl Nehammer, a exclu de discuter avec Herbert Kickl, jugé trop radical, mais pas avec le FPE. Les conservateurs pourraient toutefois préférer s'allier aux sociodémocrates, éventuellement associés au parti libéral Neos. Isorias, Vienne, RFI.
C'est un morceau d'histoire que nous avons écrit, dit le chef du FPE, le très radical Herbert Kickl, en encourageant ses partisans à savourer le résultat. Près de 29% des suffrages, donc, Anastasia Becchio, c'est plus que ce que prédisaient les sondages. 13 points de plus que lors des dernières législatives, mais ça ne garantit pas au FPE de pouvoir gouverner.
Oui, Herbert Kickl ne sera sûrement pas chancelier. Il risque d'échouer à former une coalition. Rien ne dit à l'heure actuelle qu'un parti accepte de rejoindre le FPE. C'est en fait l'EVP, le parti conservateur du Premier ministre Karl Nehammer, qui pourrait décider du visage de la prochaine coalition, comme le précisait Isor. Arrivé en deuxième position, il recueille un peu plus de 26% des suffrages.
Et quels sont sont ses options ?
Il pourrait choisir de s'allier au FPÖ, mais ce serait a priori sans la figure d'Herbert Kickl, qui représente selon lui un risque pour la sécurité du pays. Les conservateurs forment déjà des coalitions avec l'extrême droite dans 3 régions du pays et ils ont déjà gouverné ensemble en 2000 et en 2017. Autre option, une alliance avec les sociaux-démocrates éventuellement associés au parti libéral Neos. Ce format à 3 serait une première pour l'Autriche.
En tout cas, cette victoire du FPÖ, elle confirme une tendance qu'on observe dans de nombreux pays d'Europe. Les forces populistes ne montrent aucun signe d'essoufflement. Et si elles ne sont pas forcément au pouvoir, en tout cas, elles s'en rapprochent.
Oui, et c'est le cas en Allemagne, où l'AfD a enregistré une forte progression aux élections régionales ces dernières semaines. En Thuringe, elle a même atteint une minorité de blocage. Dans ces Länder de l'Est, les chrétiens démocrates réussissent à se maintenir, mais au prix d'une droitisation de leur discours. La CDU a adopté une ligne de plus en plus conservatrice ces derniers temps. Elle est aujourd'hui favorite dans les sondages pour les élections législatives de l'automne 2025.
Et à plus court terme, quelles sont les conséquences au plan fédéral ?
On a assisté à un virage politique avec la décision de la coalition d'Olaf Scholz de rétablir les contrôles aux frontières et d'expulser des immigrés afghans. Difficile de ne pas y voir un lien avec la pression exercée par la droite et l'extrême droite, d'autant que jusqu'à il y a peu, beaucoup de sociaux-démocrates étaient hostiles à des mesures comme les contrôles aux frontières.
Et plus largement en Europe, la question migratoire revient au premier plan.
Aux Pays-Bas, par exemple, où le cabinet issu des élections de novembre dernier compte 5 ministres du PVV, le parti d'extrême droite qui a remporté le scrutin. Son chef de file, Geert Wilders, n'a pas été nommé Premier ministre, mais il impose ses idées aux autres partenaires de la coalition qui ont, par exemple, accepté d'introduire une politique d'immigration la plus dure jamais mise en place par le pays, quitte à aller au conflit avec Bruxelles en demandant une dérogation aux règles d'asile. Et puis, autre exemple en France, où on attend le discours de politique générale de Michel Barnier demain, sous étroite surveillance notamment du Rassemblement national. Ce week-end a été marqué par une sortie du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui appelle de ses voeux un référendum pour modifier la Constitution et durcir drastiquement les lois sur l'immigration.
Anastasia Becchio, l'extrême droite donc en plein essor dans plusieurs pays d'Europe et notamment en Allemagne, vous nous le disiez. Alors l'AfD n'est pas au pouvoir au niveau fédéral, mais elle a remporté la tête d'une région début septembre. Elle a conforté son poids lors d'autres scrutins locaux comme dans le Brandebourg. Et dans ce contexte, des jeunes issus de plusieurs pays européens ont lancé une initiative pour contrer une partie des idées de l'extrême droite pour promouvoir leur vision pro-européenne. Europa Mobile se déplace dans des lieux publics, comme dans ce lycée du sud de Berlin où notre correspondante Delphine Nerbollier les a rencontrés.
Le bus est garé dans la cour du lycée Copernic dans la commune de Blankenfeld-Malo. Un bus vert sapin avec l'inscription Europa Mobile. À l'intérieur, une vingtaine de jeunes d'une vingtaine d'années venus de France, d'Allemagne, de Pologne, de Grèce, des Pays-Bas, pour promouvoir l'Europe et la démocratie. Dans ce lycée du sud de Berlin, ces jeunes s'adressent aux classes de seconde, en anglais, en musique et avec une bonne humeur assumée.
Hello, we are Schlossgen Science, running by a magic atmosphere, and we are coming all over from Europe, only for you.
À Blankenfeld-Malo, l'extrême droite a recueilli 27% des voix lors des élections régionales du 22 septembre. C'est à peine moins que dans le reste de la région, le Brandebourg. Le sujet est évidemment abordé entre les jeunes de l'Europa Mobile et les lycéens lors de discussions en petits groupes.
Je trouve ça très choquant que l'AfD soit aussi forte. Mais peut-être que les gens sont insatisfaits de ce qui se passe en ce moment dans la politique. Ils veulent peut-être changer les choses. C'est peut-être une raison.
Moi, je ne suis pas pour que l'AfD soit aussi forte. Je ne veux pas que tous les immigrés quittent le pays. Ils ont commencé leur vie ici, ils ne sont pas responsables de la guerre chez eux. Donc je ne soutiens pas ce que l'AfD fait, ou plutôt ce qu'elle veut faire.
Si les opposants à l'extrême droite s'expriment assez ouvertement dans ce lycée, la réalité est toutefois à nuancer. Début septembre, l'établissement a organisé une mini-élection régionale parmi les jeunes de la troisième à la terminale. Résultat, le parti AfD est arrivé en tête. Un vote qui reflète la situation politique dans ces régions de l'Est de l'Allemagne, mais qui surprend en partie Birgit Schwarz. Elle enseigne les sciences politiques dans ce lycée.
Les jeunes qui partagent ce genre d'idées ne se mettent pas en avant. Ils ne débattent pas aussi ouvertement que ceux qui y sont opposés. En fait, on ne voit pas vraiment les lignes de fracture au lycée.
Dans un tel contexte, l'initiative Europa Mobile mise sur des ateliers ludiques pour démonter les idées reçues, apprendre à s'informer correctement, à déceler les fake news. Un défi immense mais atteignable selon Stéphane Bastos, il est l'organisateur de ce projet Europa Mobile au sein de la fondation Genshagen.
Les récentes élections jouent un rôle important dans nos ateliers. Elles planent comme un nuage au-dessus de nos têtes et de nos projets. Et nous voyons le travail qu'il nous reste à faire. C'est une sorte de travail de Sisyphe. On se bat contre de gros opposants, comme les médias sociaux, les infos écourtées, la désinformation. Nous en parlons activement dans nos ateliers. Il est clair qu'un projet comme Europa Mobile peut apporter une petite contribution en ce sens.
Plus largement, Europa Mobile tente de rapprocher l'Union européenne des jeunes tombés dans la marmite quand ils étaient petits et qui ne se rendent pas forcément compte des bénéfices de cette organisation unique au monde. Pour eux, la paix entre la France et l'Allemagne, par exemple, est quasiment naturelle, l'absence de contrôle aux frontières aussi. Stéphane Bastos.
Le problème central n'est pas un grand euroscepticisme ou un rejet de l'UE. Bien sûr, cela existe, mais cela reste des exceptions. Le gros problème, c'est plutôt une indifférence générale. Les jeunes ne voient aucune sorte de lien entre eux et l'Union européenne. Souvent, ils n'ont aucun contact avec d'autres cultures, avec les voisins européens. Même ici, dans le Brandebourg, de très nombreux jeunes, certainement même la majorité, ne sont jamais allés en Pologne. Et pourtant, c'est à quelques kilomètres de là.
Everyone's ready?
Favoriser les échanges, communiquer, faire descendre l'Union européenne sur le terrain, au plus près des jeunes, la recette semble éculée, mais plus que jamais indispensable en ces temps de crise écologique, de mauvaise performance économique de l'Allemagne et de craintes liées à l'immigration.
Reportage de Delphine Nerbollier à réécouter dans l'émission Accent d'Europe ce soir à partir de 19h10 temps universel.
RFI Midi, Berlin, 96.7 FM.
Tous ces partis d'extrême droite, ils défendent une ligne très dure sur l'immigration, on en parlait tout à l'heure. L'Allemagne, par exemple, veut reprendre les expulsions de ressortissants afghans. Les Afghans sont aussi de plus en plus inquiets en Turquie. Les réfugiés sont très nombreux dans le pays, initialement considérés comme un point de passage, mais qui constituent souvent une impasse pour ces exilés, pour ceux qui ont réussi à fuir le régime taliban. Les Afghans vivent alors dans un pays hostile, où se trouvent déjà 3 millions de Syriens et marqué par une flambée xénophobe depuis quelques temps. Notre correspondante Anne Andlauer est allée voir comment se sentent ces réfugiés. Ils lui ont raconté la peur constante d'être expulsés.
Il y a 10 ans, Fatma a quitté l'Afghanistan pour survivre, littéralement. Un attentat des talibans contre son lieu de travail, le siège à Kaboul de la commission électorale, l'a blessée grièvement. En Turquie, Fatma a subi une 10aine d'opérations qui lui ont sauvé la vie et ont permis de reconstruire en partie son visage. Hors de question pour elle, son mari et leurs 4 enfants de rentrer en Afghanistan, surtout depuis que les talibans ont repris le pouvoir.
J'ai 2 filles, la plus âgée vient d'avoir 18 ans, des femmes, toujours plus de femmes, c'est ce que veulent les talibans. Ils harcèlent les pères et les frères pour les avoir, c'est ça l'Afghanistan.
Fatma a peur d'être renvoyée là-bas. Lorsque les autorités turques ont refusé de renouveler son permis de séjour, au motif que son traitement était terminé, elle s'est enregistrée auprès du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, le HCR. Mais son sort dépend tout de même du bon vouloir de la Turquie, puisque c'est elle qui examine les demandes d'asile pour le compte du HCR.
Au HCR, on m'a dit, vous avez des filles, vous travaillez pour le gouvernement. Votre dossier est prioritaire, mais ça ne dépend pas de nous. Il y a plus d'un an, l'Office turc des migrations nous a fait passer 2 jours d'entretien. Depuis, rien. La Turquie expulse régulièrement des Afghans. On ne sait pas ce qu'on va devenir.
Fatma et son mari, qui ont tous deux un diplôme universitaire, elle de littérature, lui en ingénierie, n'ont pas le droit de travailler, ne reçoivent aucune aide. Pour nourrir leur famille, ils fabriquent des casquettes dans un atelier clandestin. Leurs 4 enfants vont à l'école, ils ont appris le turc, Fatma aussi. Mais dans la société, l'hostilité à l'égard des réfugiés se propage et l'inquiète.
Quand ce ne sont pas les voisins qui nous insultent, c'est le directeur du lycée qui me dit droit dans les yeux qu'il n'aime pas les étrangers, qu'il y en a beaucoup trop. Je n'ose pas imaginer ce qu'il a dit à mon fils. Nous n'avons aucun avenir ici.
Si leur demande d'asile est acceptée, Fatma et sa famille seront réinstallées dans un autre pays où elle espère, dit-elle, vivre enfin dignement. Malheureusement, rien n'est moins sûr. Qu'ils soient réfugiés, avocats, responsables d'ONG, Tous ceux qui suivent de près la politique migratoire de la Turquie font le même constat. Depuis 2018, et plus encore après la victoire des talibans en Afghanistan, les autorités d'Ankara ont tellement resserré la vis que le pays est devenu une impasse pour les quelques 300 000 Afghans qui y vivent. Cette politique prend plusieurs formes. Refus quasi systématique d'enregistrer leurs demandes d'asile ou d'approuver les rares demandes qui ont pu être enregistrées. Contrôle draconien à la frontière avec l'Iran par laquelle passent les Afghans et renvoi manu militari de ceux qui arrivent à passer. Expulsion par avion de ceux qui sont arrêtés dans le pays, des hommes seuls en priorité, sans s'être penchés sur leur cas et les risques éventuels d'un renvoi. Sali Efe, un avocat spécialisé dans ces questions, résume la situation.
Lorsque les talibans sont revenus au pouvoir, la Turquie a dû affronter un afflux massif de réfugiés afghans. Ils arrivaient par dizaines de milliers à la frontière avec l'Iran. La population s'est mise à paniquer, et l'État aussi. Depuis, la Turquie n'enregistre plus les demandes d'asile des Afghans, sauf peut-être pour 1 ou 2% d'entre eux. C'est illégal au regard du droit turc et du droit international. Normalement, vous enregistrez la demande et ensuite vous décidez de l'accepter ou de la refuser. Et pour les très rares cas qui sont examinés, plus de 90% d'entre eux aboutissent à un refus.
En tant qu'avocat, Sali Efe dit se sentir totalement impuissant. Ses clients afghans sont expulsés les uns après les autres, alors même qu'il intente des recours devant les tribunaux administratifs. Pire, explique-t-il, le recours ultime dont disposaient autrefois les migrants en instance d'expulsion, la Cour européenne des droits de l'homme, ne sert plus à rien. Document à l'appui, cet avocat et ses collègues accusent la Cour de Strasbourg de refuser toutes leurs requêtes visant à empêcher le renvoi d'Afghans dans leur pays.
Désormais, 99% de mes demandes de mesures d'urgence auprès de la Cour européenne des droits de l'homme sont refusées. La Cour est sous l'influence des États, puisque ce sont eux qui nomment les juges qui y siègent. La logique de la CEDH, c'est de dire, si je prononce des mesures d'urgence pour empêcher les expulsions par la Turquie, alors la France non plus ne pourra plus expulser, et l'Italie non plus, le Royaume-Uni non plus, l'Allemagne non plus, parce que cela créerait une jurisprudence. La motivation politique derrière ces refus est évidente quand on lit les motifs fournis par la Cour. Souvent, nos demandes sont rejetées au motif que la date et le jour de l'expulsion ne sont pas précisés, mais personne ne connaît jamais l'heure et la date d'une expulsion à l'avance.
Ali Ekmat, un architecte afghan qui vit en Turquie depuis 15 ans et a fondé l'association de solidarité avec les réfugiés afghans, dépeint un tableau similaire. Avec la politique très stricte des autorités turques, couplée à la montée du sentiment anti-réfugiés dans la population, ils sont de plus en plus nombreux à tenter d'atteindre l'Europe.
Quand vous êtes un afghan en Turquie, quand on refuse d'examiner votre demande d'asile, de vous donner le moindre papier d'identité, ou quand on annule celui qui vous avait été donné, quand on rejette votre demande d'asile lorsque vous avez eu la chance de voir votre cas traité, quelle issue vous reste-t-il? Pour beaucoup, le retour en Afghanistan n'est pas envisageable. Alors la seule voie possible, c'est de tenter d'entrer illégalement en Europe via la Grèce ou la Bulgarie.
De l'Afghanistan à l'Europe, un voyage à haut risque. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, au moins 3400 Afghans sont morts sur les routes de l'exil ces 10 dernières années, dont plus d'un tiers pendant la seule année 2023. Anand Loer, Ankara, RFI.
La peur d'être expulsée, de devoir retourner en Afghanistan où les femmes vivent emprisonnées chez elles à cause des lois liberticides des talibans. D'ailleurs, la Cour nationale du droit d'asile en France a décidé en juillet dernier que le simple fait d'être une femme dans ce pays était désormais un motif suffisant pour bénéficier du statut de réfugiée. Quelle est la portée de cette décision ? Élément de réponse avec Tania Rachaud, juriste et chercheuse à l'université Paris-Saclay. Elle est également assesseure à la Cour nationale du droit d'asile.
Ça veut dire pour nous concrètement en France que le simple fait d'être une femme afghane suffit pour recevoir une protection et un statut de réfugié. Initialement, la Cour de justice de l'Union européenne a pris une décision similaire au début de l'année, d'ailleurs qui n'était pas à l'égard d'une femme afghane puisque c'était une femme kurde, qui était aussi reconnue comme pouvant être oppressée en raison de son genre. Et en fait, ça a ouvert surtout la voie à la reconnaissance du genre comme un critère de ce qu'on appelle le groupe social pour être reconnu réfugié. Concrètement, il faut qu'elle puisse partir de leur pays, qu'elle puisse s'exiler. Et ça reste compliqué. Ça ne va pas ouvrir pour autant une voie d'accès sécurisée pour les femmes afghanes qui permettrait de les sortir du pays. C'est plutôt une fois qu'elles sont en France, on facilite la reconnaissance de leur statut de réfugié.
Tania Rachaud, juriste et chercheuse à l'université Paris-Saclay et assesseure à la Cour nationale du droit d'asile, elle répondait à Juliette Kerprand.
RFI Midi, un monde de tech.
On parle souvent ici des risques liés au développement de l'intelligence artificielle, des manipulations qui trouvent un écho considérable sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi des bons côtés quand même, et nous sommes en ligne avec notre correspondante à Rome pour en parler. Blandine Hugonnet, l'intelligence artificielle, elle sert aussi à percer les derniers mystères des tableaux de la Renaissance grâce à un outil qui décortique les techniques des peintres et la composition des œuvres. Comment ça fonctionne exactement?
Alors pour l'expliquer, il faut savoir que depuis un demi-siècle, la méthode la plus pointue pour connaître la composition d'une toile, c'est de la passer au rayon X. Sauf qu'il en ressort des millions de données extrêmement techniques et longues à analyser. Et bien c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Les scientifiques italiens ont créé un cerveau informatique pour absorber et décrypter rapidement ces tonnes d'informations. Ils lui ont fait enregistrer 500 000 empreintes de matière, de composants, de pigments, souvent utilisé par les peintres aux différentes époques. Et ce réseau de neurones est donc désormais capable de reconnaître avec exactitude et en un temps record ce qui se cache dans ces couches de peinture et même sous chaque coup de pinceau, sans avoir besoin ni de compétences spécifiques ni d'échantillons réels et de toucher à la toile.
Ce qui permet de révéler les secrets du grand peintre Raphaël, par exemple. C'est sur ses œuvres que l'intelligence artificielle a été testée en premier.
Oui, deux fragments du maestro de la Renaissance ont été pris comme cobayes. Plus précisément, la radiographie d'un retable, un panneau du début du XVIe siècle conservé dans un musée de Naples, qui figure notamment un dieu à longue barbe dans un drapé de rouge et de vert. Résultat, l'expérience, l'intelligence artificielle a pu démasquer des traces, même infimes, d'éléments chimiques, du potassium associé à du cuivre pour la couleur verte du manteau de dieu, un mélange de pigments bleu et rouge pour obtenir une ombre violette sous ses yeux. Voici la recette du peintre italien qui ressemble aux pratiques d'ailleurs du Pérugin, le maître de Raphaël. C'est ce que révèle cette technologie qui fournit tout un tas d'indices sur les techniques picturales pour donner des effets mystérieux de lumière ou de flou, mais aussi sur l'histoire de cette fresque de la Renaissance. Autre découverte de l'intelligence artificielle, la présence de titane et de zinc utilisés seulement à partir du 19e siècle, qui dévoile donc les retouches réalisées au fil des décennies afin de conserver cette peinture de Raphaël.
Quoi donner des éléments clés aux restaurateurs grâce à l'intelligence artificielle qui est de plus en plus utilisée, Blandine, pour décrypter l'art italien.
Oui, c'est une source de découverte. Par exemple, pour rester à la Renaissance avec le peintre Raphaël toujours, sur un tableau dont sa paternité faisait débat, une IA entraînée à percevoir des détails qui échappent normalement à l'œil humain a pu déterminer qu'un visage de Saint-Joseph a été peint par un autre artiste, sûrement un des élèves de Raphaël. L'intelligence artificielle qui nourrit aussi ici le travail des historiens en Italie. Si on remonte dans le temps, l'IA s'est révélée déterminante cette année pour déchiffrer des rouleaux de papyrus carbonisés lors de l'éruption du Vésuve et dévoiler la cuisine, la musique et les plaisirs d'il y a 2000 ans près de Pompéi.
Blandine Hugonnet à Rome pour RFI.
RFI Midi.
Notre question d'environnement à présent. Quel avenir pour les baleines? Cette question, elle était au cœur des travaux de la Commission baleinière internationale il y a quelques jours au Pérou. Les avis sont très tranchés, hein, Jeanne Richard, entre les pays qui veulent protéger davantage ces animaux essentiels à l'équilibre de la vie sous-marine et ceux qui, au contraire, souhaitent rétablir la pêche à la baleine commerciale, parmi lesquels plusieurs pays africains, Jeanne.
Oui, une requête a été déposée par la Guinée avec le soutien d'autres pays du continent, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Ghana ou encore Congo-Brazzaville. Ces pays voulaient pouvoir pêcher la baleine afin de lutter, disent-ils, contre l'insécurité alimentaire. La proposition a été rejetée par les autres États membres de la commission baleinière. D'abord, aucun de ces pays africains n'a de tradition de chasse et de consommation de viande de baleine. Les dernières campagnes de chasse date de l'époque coloniale et était destinée aux pays occidentaux. Et pour assurer la sécurité alimentaire de leurs habitants, ces pays savent que la chasse à la baleine n'est pas une solution. D'ailleurs, elle est interdite par leurs lois nationales dans leurs espaces maritimes. Il serait plus efficace de lutter contre le pillage de leurs poissons par les flottes industrielles asiatiques et européennes, taclent les ONG de défense de l'environnement. En réalité, derrière cette requête se cache le Japon, selon Matt Kellis du Fonds international pour la protection des animaux. Le Japon, un des trois derniers pays à chasser la baleine avec la Norvège et l'Islande.
Ils ont été persuadés par le Japon de demander l'autorisation de la pêche à la baleine. Je pense que c'est du fait que beaucoup de ces pays reçoivent d'importantes aides financières de la part du Japon pour leur pêcherie. Et c'est un échange de bons procédés. De l'argent pour les pêcheries contre une position pro-chasse à la baleine, à la commission. Mais aujourd'hui, plus personne ne mange de baleine. Il y a des milliers de tonnes de viande de baleine entreposées dans des congélateurs au Japon parce que les nouvelles générations n'en veulent plus. Et la Norvège et l'Islande ont du mal à exporter leurs excédents de viande de baleine au Japon parce qu'il n'y a tout simplement pas de marché. Ce n'est plus une activité économique viable.
La chasse à la baleine reste donc interdite, comme c'est le cas depuis le moratoire de 1986. À l'époque, la chasse industrielle avait réduit à peau de chagrin les populations de baleines et plusieurs espèces étaient alors considérées comme en danger de disparition.
Et c'est toujours le cas d'ailleurs pour certaines espèces, comme la baleine franche-atlantique qui est en train de s'éteindre. Il ne reste plus assez d'individus pour assurer la survie de l'espèce. Par contre, d'autres, comme la baleine à bosse, ont vu leur population augmenter grâce aux efforts de conservation et ce fameux moratoire. Mais de toute façon, elles font toutes face de plus en plus de dangers, les collisions avec les bateaux, la pollution, le changement climatique ou la pêche accidentelle. Or, il est primordial de les protéger. Les cétacés se situent tout en haut de la chaîne alimentaire. Leur faim entraînerait un effet domino sur toutes les espèces se trouvant en dessous du plancton aux poissons que l'on mange.
Jeanne Richard et ses débats, ils trouvent un écho particulier en ce moment, puisqu'une figure très célèbre de la défense des baleines est toujours sous les verrous, le fondateur de l'ONG Sea Shepherd, Paul Watson. Il comparaîtra de nouveau cette semaine devant la justice du Groenland en attendant une possible extradition vers le Japon, où il est poursuivi en justice. 13h56 à Paris. Dans quelques minutes, un nouveau journal. Et puis à midi et demi, temps universel, l'actualité africaine. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner.
Avec à la une tout à l'heure.
Le Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye annonce la création d'un comité chargé de passer en revue les contrats passés avec les sociétés étrangères. C'était l'un des thèmes de sa campagne. Et puis le député sénégalais Guy Marius Sagna, agressé et blessé hier à Lomé. Des gros bras ont envahi et saccagé la salle où il assistait à une réunion de l'opposition togolaise, le tout en toute impunité.
À tout à l'heure, Nicolas Sûr. Et en attendant le journal de midi, temps universel, je vous propose d'écouter un peu de musique. Voici Adi Oasis, chanteuse, bassiste, productrice franco-caribéenne, et son titre Sidonie.
Adi Oasis,
Alice, à découvrir en ce moment dans la playlist RFI. Vous restez sur notre antenne. Rendez-vous dans quelques secondes maintenant pour le journal Toute l'actualité internationale.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Allons-nous réussir à préserver une planète habitable pour tous les humains en harmonie avec l'ensemble du vivant ? C'est la question à laquelle nous répondons chaque semaine dans C'est pas du vent. La bonne nouvelle est que nous connaissons le chemin pour y parvenir. Toutes les solutions sont à notre portée.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à 14h10 TU sur RFI.